Droit au logement, droit inaliénable. Depuis 1980, la CNL, Confédération nationale du logement, est une association agréée de consommateurs et consommatrices. Elle milite pour la préservation du pouvoir d'achat et l'amélioration de la vie quotidienne des familles.
Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter l'une et l'autre ?
Cristiano Detti, je suis la vice-présidente de la CNL 81, Confédération nationale du logement.
Mahmoud Aouchaouich, je suis le président de CNL, Confédération nationale du logement 81.
Le 1er juin 2021, comme chaque année, ce sera la fin de la trêve hivernale et les expulsions locatives vont reprendre. Mais 2021 n'est pas une année comme les autres. Du fait de la perte importante de revenus, beaucoup de locataires sont dans l'incapacité de payer leur loyer. Des vies entières peuvent être broyées par une procédure d'expulsion. La CNL 81 a donc adressé un courrier à Madame la Préfète pour qu'elle n'autorise aucune expulsion en 2021. Elle interpelle aussi tous les bailleurs, qu'ils soient sociaux ou non, afin qu'ils ne demandent aucune expulsion. Le gouvernement a mis en place un fonds d'indemnisation des propriétaires bailleurs victimes d'impayés, mais quid d'un dispositif équivalent pour les locataires ? Nous sommes allés à la rencontre de la Confédération nationale du logement 81 dans leurs locaux de Cantepo à Albi le 4 mai 2021.
La CNL, au plan national, a été créée en 1916. Elle n'est pas née de rien, elle n'est pas née tout d'un coup. Elle est née du mouvement ouvrier depuis la fin du 19e siècle. À partir du moment où, avec la révolution industrielle, des salariés ont cherché un logement, ont été, disons, rassemblés dans certains secteurs et ont cherché un logement. Et donc, la première des revendications, ça a été d'avoir un logement, disons, accessible financièrement et en bon état. Certes, depuis, les conditions de logement se sont améliorées, heureusement, en plus d'un siècle et demi. Néanmoins, la revendication reste. Elle est toujours d'actualité, avoir un revenu décent. Aujourd'hui, on dit décent. Alors ensuite, à partir de 1916, la CNL a participé à toutes les avancées, notamment après la libération en 1946, etc., a participé à toutes les avancées concernant le logement. C'est-à-dire que au départ, il n'y avait aucune réglementation. Et à partir, donc il y a eu des constructions de logements HLM après la libération. Et ensuite, donc, il y a eu toute cette marche pour avoir droit à accès. Et disons, il y a eu une loi importante en 1981, la loi Quillot, qui a fixé le cadre des relations entre locataires et bailleurs. Et ensuite, il y a eu la loi du 6 juillet 89. Donc, c'est deux lois importantes qui régissent les rapports bailleurs locataires. Donc, nous intervenons à la fois nationalement et localement, pour défendre les droits des locataires. Donc, nous accompagnons aussi les locataires individuellement, qu'ils soient dans le secteur social ou pas, dans le secteur public ou privé. Nous accompagnons tous les locataires qui rencontrent un litige ou une difficulté avec leur bailleur. Donc, nous leur permettons à la fois de régler le litige sans avoir accès, sans recourir au tribunal, et puis même pour des revendications qui ont du mal à être entendues par le bailleur, notamment quelquefois le bailleur social. Bon, il suffit, d'un appui et puis le locataire a satisfaction. Voilà.
Est-ce qu'on peut expliciter la différence justement entre un bailleur lambda et un bailleur social ?
La différence est grande. Déjà, il y a une différence importante entre un bailleur social qui est une institution, qui est un organisme. Alors, public, mais il y a aussi, vous savez, alors ça peut être l'objet d'une autre question. Il y a de moins en moins de bailleurs publics, parce que ceux qui étaient publics sont en train d'être privatisés, tel Tarnabita. Et puis, il y a les bailleurs sociaux qui sont déjà privés. Et ensuite, il y a les bailleurs individuels. Donc, c'est très différent entre un bailleur individuel et un bailleur social, qu'il soit public ou privé, c'est très, très différent. Après, les sujets abordés, ça peut être donc, les demandes de travaux. Ça, c'est un peu commun à tous, hein, les demandes de travaux, demandes d'entretien, de réparation du logement et la question du remboursement du dépôt de garantie, hein, qui est bon, un litige qui est fréquent. Alors après, il y a une multitude d'autres questions qui viennent, hein. En plus, on traite aussi des questions de consommation. Hein, il y a aussi la question des charges, le calcul des charges. Il y a des charges qui sont imputables aux locataires, des charges qui sont imputables aux propriétaires. Donc la liste est fixée par décret. Il est normal que le locataire demande un justificatif de ses charges. C'est bien normal. Chacun de nous, quand on achète quelque chose, on paie contre un justificatif. Donc pour les charges, ça doit être pareil. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors on effectue avec des locataires des contrôles de charges, donc chez les bailleurs sociaux. Ce n'est pas simple, mais bon, ça fait partie aussi, disons, de notre combat. Voilà.
Vous écoutez une entrevue avec Christiane Odetti et Mahmoud Abouchaouich, respectivement vice-présidente et présidente de la Confédération nationale du logement 81, une entrevue enregistrée le 4 mai 2021.
Les locataires sont peut-être un peu mieux informés, mais il reste beaucoup à faire, vraiment beaucoup à faire.
On sait parfois qu'on a beau savoir nos droits, on n'a pas forcément le réflexe de le faire appliquer.
Oui, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup aussi, les gens ont beaucoup de soucis, de préoccupations. Et donc, quelquefois, même s'ils ont l'impression de se faire avoir, voilà, ils paient, ils ne vont pas plus loin.
Et donc vous agissez comme conseil, mais est-ce qu'il existe aussi des associations de locataires entre eux qui peuvent venir vous voir à plusieurs, pour parler d'une seule voix plus fort?
Alors nous efforçons de créer ce qu'on appelle nous des amicales ou des groupements de locataires. Ça permet donc, c'est la CNL par exemple dans un quartier, donc un groupe d'adhérents, un groupe de locataires adhère à la CNL et surtout lorsqu'il s'agit d'une revendication commune à un immeuble ou plusieurs immeubles, c'est effectivement beaucoup plus, disons, efficace qu'il y ait un groupe d'adhérents donc qui constituent une amicale dans un quartier et ensuite la CNL du département. Je dirais que la meilleure façon de procéder, c'est celle-là. C'est d'avoir un rassemblement des locataires avec la CNL. C'est la meilleure façon d'accéder. Et on le voit par exemple avec les locataires du quartier Saint-Martin à Albi, donc qui se sont regroupés, dont certains sont adhérents à la CNL et qui ont agi donc avec la CNL départementale. Et bon, ainsi, un projet de réhabilitation est prévu, a été budgétisé. On l'a vu aussi à Lavore. Maintenant les travaux ont été faits, mais c'est aussi un groupe de locataires avec la CNL qui ont obtenu donc une rénovation de leur quartier. Thank you.
rez-de-chaussée. Dans mon HLM, y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe une nuit dans les caves avec son Beretta, traque le môme qui chouave, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de pincu. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la bombe du huitième. Le HLM au premier. Dans mon HLM, y'a le jeune cadre dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, son deux pièces plus le diable. Il en a chez 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sure pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable sont tristes. Il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM est la môme du huitième. Le HLM au deuxième. Dans mon HLM, y'a une bande allumée qui vivent à 6 sous 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps la musique des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit. Y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'en a un matelas par terre. Les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer. Ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme huitième. Le HLM au troisième. Dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub l'hiver à Avoriaz. Le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini copper, elle allume tout le quartier. Quand elle sort son cocker au manif de Gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant. Parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit, ce qui est pleine. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM au quatrième. Dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste, même que ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, y'a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est vous dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la môme du huitième. Le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM.
Merci à Arthur H, reprenant Renaud, on retourne auprès de Christiane Odetti et Mahmoud Abouchaouich, respectivement vice-présidente et président de la Confédération nationale du logement 81, une entrevue enregistrée le 4 mai 2021.
Est-ce que Tarn Habitat est toujours le plus gros bailleur social du Tarn, public donc, et pourquoi vous dites qu'il est privatisé ou qu'il est en train d'être privatisé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Alors, c'est le plus gros bailleur effectivement du Tarn, hein, avec 8500 logements dans l'ensemble du Tarn, donc de loin le premier bailleur social, donc qui était jusqu'à présent un OPH, Office Public de l'Habitat, et qui depuis le 1er janvier 2021 a adhéré à une société anonyme de coordination. Donc, comme le nom l'indique, société anonyme de coordination, c'est un organisme privé. En même temps, donc, Tarn Habitat est passé en comptabilité commerciale, donc les deux choses sont liées évidemment. Alors, pour l'instant, on dira qu'on ne voit pas les effets du changement de façon immédiate. Mais petit à petit, c'est clair qu'on va s'apercevoir qu'on est dans chez un bailleur privé et plus un bailleur public. Voilà. Alors on nous présente cette association, cette SAC, Société Anonyme de Coordination. On nous dit que ça permettra la mutualisation des moyens entre les 5 OPH qui se sont regroupés. L'OPH du Tarn-et-Garonne, du Gers, du Lot et de Rodez, et du Tarn. Néanmoins, mutualisation, ça signifie clairement réduction des moyens. Mmh. Voilà, donc raison de plus pour, de se mobiliser avec les locataires pour conserver et surtout pour avoir, des logements mieux entretenus qui ne le sont, et tout en restant à un niveau de loyer acceptable.
Est-ce que tout bailleur social a une mission de service public envers les citoyens? Et quel risque on a à voir se privatiser les bailleurs sociaux à public?
Oui, les bailleurs sociaux ont une mission de service public. Alors, le risque, je reviendrai ensuite sur notre façon de voir le service public. Mais le risque, en passant au privé, le privé, ça veut dire qu'on privilégie les questions financières avant le côté humain. Bon, mission de service public, ça veut dire pour nous que tous les habitants, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir accéder à un service public, à un service, à un logement public. Voilà. Nous, on considère que tous les habitants devraient pouvoir accéder. Je crois que les chiffres, c'est que 75% de la population en France a des revenus qui lui permettent d'accéder à un logement social. Bon, donc, on n'est pas si loin. Donc, nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est bon. Alors, pour que tous les habitants puissent accéder à un service public, d'abord, il faut qu'il y ait suffisamment de logements pour répondre à la demande. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Hein, nous demandons la construction de 250 000 logements par an.
Sur toute la France.
D'accord. Sur toute la France. Bon. Donc on est loin de ça. Et on voit très bien dans les commissions d'attribution, et même que la marge de manœuvre est très, très étroite et que c'est difficile pour les locataires d'obtenir une mutation. Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de logements. Il n'y a pas suffisamment de logements disponibles. Oui. Voilà. Donc. Et ensuite, en passant au privé, ça veut dire que pour l'instant, les actionnaires, bon, ce sont les 5 OPH, bon, mais au bout d'un moment, l'intérêt des actionnaires va passer avant le service rendu au locataire. Donc le service rendu au locataire ne sera pas la priorité. Ben, le budget des bailleurs sociaux, c'est avant tout les loyers des locataires. C'est l'essentiel du budget, les loyers des locataires. Voilà, c'est ce qu'on oublie souvent. Alors ensuite, pour faire des travaux de réhabilitation, etc., les bailleurs demandent des subventions, donc au conseil départemental, aux collectivités locales, quelquefois à l'Europe, voilà, à la région.
Pour des projets ponctuels.
Oui. L'État ne finance plus. L'État a réduit depuis plusieurs années son financement, et ces dernières années il ne finance plus le logement social. C'est bien ça qui crée le problème. Et ce qui est, je dirais, ce qui est grave, c'est la loi Elan. La loi Elan votée fin 2018, qui a prévu la privatisation justement des offices publics, qui les oblige à se regrouper. Donc c'est ce qui a été fait au 1er janvier 2021. L'objectif, il ne faut pas se le cacher, c'est de se regrouper une première fois, peut-être de se regrouper encore après pour arriver au plan national 3-4 bailleurs. Et à ce moment-là, on ne sera plus du tout, mais plus du tout dans le logement social. Et ça, c'est l'objectif en France et en Europe. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé dans le texte, c'est logement social résiduel. Donc ça veut dire qu'on garderait quelques logements sociaux pour ceux qui sont insolvables, pour les habitants qui sont insolvables. Voilà. Donc c'est très grave parce que là, on est à la croisée des chemins. Et c'est un recul social phénoménal.
Nicole Ferroni, on me dit ce matin que vous êtes accrochée.
Oui, en fait, et même pire, je suis accrochée puisque je me suis faite accrocher par l'acronyme de la loi Elan, la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique votée hier à l'Assemblée.
13 juin 2018.
Car cet acronyme montre bien que les types en polo de la com du gouvernement ont bien bossé. Ils ont dû faire, ouais, là pour la loi logement avec Jérém, on pensait au départ à projet aménagement fonctionnel, sauf que du coup l'acronyme ça aurait fait paf, et on a peur que ça soit un petit peu frontal. Donc on est parti sur évolution, logement, aménagement numérique, et là du coup ça fait élan et ça montre que le gouvernement est vraiment dans le mouvement. Oh mais super Richard, car c'est vrai qu'on a besoin de mouvement dans le logement, car la France, avec ses 150 000 personnes sans domicile et ses 4 millions de mal logés, est plutôt au point mort. Et donc si on veut honorer ce droit fondamental d'avoir un toit, oui, il faut de l'élan. Et il en faut d'autant plus qu'avec la récente loi finance, les logements sociaux destinés aux plus modestes se sont fait siphonner. Pardon, le carburant, je me suis fait siphonner ma voix. Puisque, avec la baisse des APL et la diminution des subventions publiques, les HLM étaient presque achevés. Et je me demandais donc, mais comment la loi Elan prévoit-elle de les relancer? Et je suis donc allée lire le dossier de presse et j'ai vu cette phrase comme quoi le ministère de la Cohésion des Territoires cherchait, je cite, « des solutions pour débloquer les freins à la construction et mieux loger les Français ». Et je me suis dit, ah mais voilà le plan du ministre Jacques Mézard, faire sauter les freins. Et quel dommage d'ailleurs qu'il ne s'appelle pas Yves, sinon ça aurait fait « Mézarrive, oui, mais arrive pour le logement et on va tous aller plus loin, on va tous faire péter des freins car des freins, il y en a plein. En effet, il y a le frein écologique avec cette loi littorale qui empêche les immeubles de pousser par respect des mouettes, il y a le frein culturel avec la loi Malraux qui interdit de défigurer les monuments protégés, il y a le frein solidaire, la loi handicap qui oblige ces pauvres promoteurs à laisser passer les roues des fauteuils roulants dans 100% des appartements. Et enfin, il y a le frein du vivre ensemble avec la loi SRU, aussi appelée la serrure par certains maires, parce qu'elle les contraint tous à avoir avoir 25% de logement social dans leur ville, afin que les plus modestes aient un toit. Et tous ces freins, c'est très contraignant. Et on va tous bien les couper grâce à la loi Elan. Oui, à grand coup de sécateurs législatifs, on va sectionner les câbles. Et ainsi, avec l'article 15 et 20, quick les architectes. Désormais, pour construire un HLM ou poser une antenne sur le Panthéon, on ne demande plus leur accord, on demande juste un avis. Mais l'avis, on peut s'en foutre, car ils nous freinent et qu'on n'aime pas être freinés. Et on n'aime pas non plus être freinés par les personnes handicapées. Donc grâce aux sécateurs de l'article 18, quick les handicapés. Et on passe de 100 à 10% de logements adaptés. Mais rassurez-vous, les autres restent adaptables si vous poussez les cloisons. Ah d'accord, mais c'est l'État ou le bailleur qui va les payer? Ah mais non. Pourquoi cette question? En plus d'être handicapé, vous n'avez quand même pas prévu d'être pauvre. Écoutez, franchement, c'est un cumul que je ne vous conseille pas. Car grâce aux sécateurs des articles 26, 29 et 46, on va aussi quick les pauvres. Oui, en effet, nous venons de faciliter grandement la revente de logements sociaux, y compris dans les villes où il n'y en a pas assez. Et bientôt, les pauvres attendront encore longtemps pour un logement social. Donc si vous, en tant que pauvre et handicapé, vous voulez un logement social et adapté, franchement, réincarnez-vous en mouette. Car la loi littorale, c'est peut-être la seule chose qu'on n'ait pas trop coupée. Mais tout le reste, on l'a quick, 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 quick. Et moi, j'ai dit, attendez, mais là, il y a un hic. D'abord, ces nouveautés ne vont pas donner plus de logements. Et puis certes, de la voiture, vous venez d'enlever tous les freins. Sauf que si elle n'a plus d'essence, comment voulez-vous qu'elle avance? Ben, Féroni, en la poussant dans la pente, en nivelant par le bas l'accessibilité, la mixité, l'esthétique. Regardez comme le logement dégringole et dévale la pente. Fonce sans frein, à toute allure, au fond du gouffre ou dans le mur, mais avec élan. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'on aurait dû vous dire qu'en termes de logement, nous, on voulait aller plus loin, mais pas pour tomber plus bas.
On va parler de l'actualité plus présente, enfin présente depuis quelques années, notamment à Cantepo. Il y a l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec le projet Cantepo demain. Comment la CNL a abordé cette question-là, qui promet beaucoup de chambordement dans le quartier? Et comment vous avez recueilli la parole des gens sur ce qui allait se passer, qui est en train de se passer dans le quartier de Cantepo?
Alors, qu'il y ait des travaux et qu'il y ait des travaux de rénovation à Cantepo, c'est une bonne chose. Je pense que ça fait l'unanimité. Ensuite, les travaux d'isolation. À Cantepo comme ailleurs, c'est une priorité, vraiment priorité numéro un. Ce qui est moins, positif, c'est que le plan et les travaux ont été faits sans concertation avec les habitants. C'est-à-dire que les locataires qui habitent dans les logements qui vont être détruits et qui sont relogés ailleurs, ont été consultés, ont été informés. Il y a quelque chose qui a été mis en place pour les accompagner, et nous sommes intervenus quand c'était nécessaire pour les accompagner. Mais au niveau, disons, d'ensemble, au niveau, disons, de l'urbanisme et de l'ensemble, du projet. Il y a d'ailleurs un groupe de locataires qui nous a contactés et qui sont inquiets et qui ne sont pas satisfaits du fait de ne pas avoir été consultés sur ce projet. Donc, nous accompagnerons et nous aiderons donc ces locataires qui ont des idées intéressantes, des idées vraiment porteuses d'avenir sur ce quartier. Nous les accompagnerons pour qu'ils obtiennent satisfaction.
Vous, en tant que CNL, vous avez été invité sur des rendez-vous avec les différents acteurs de l'ANRU?
Non, nous n'avons pas été invités. Nous n'avons pas été invités. Nous avons été invités une ou deux fois à des réunions, comme je disais, où il était question donc du relogement des locataires, mais nous n'avons pas été invités aux réunions concernant l'ensemble du projet. Non. Nous avons, dans le cadre de la concertation locative, nous avons eu le projet. Nous a été présenté par Tarnavita, ça c'est exact, c'est tout quoi, c'est tout. Et puis je pense que c'est aussi au Cantepo, c'est difficile, c'est un quartier où il est, d'abord c'est un grand quartier, et c'est un petit peu difficile d'avoir, de se mobiliser pour les locataires. Donc, mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, et enfin quelque chose, enfin un groupe qui est en train de se mobiliser, et je pense que ça permettra d'avancer.
Vous écoutez une entrevue avec Christiane Odetti et Mahmoud Abouchaouich, respectivement vice-présidente et présidente de la Confédération nationale du logement 81, une entrevue enregistrée le 4 mai 2021.
Je dirais que tout est fait, mais partout en France, hein, je veux dire, hein, tout est fait pour diviser les gens. Je veux dire, toutes les idées colportées par les médias nationaux visent à... Et les propos, disons, de nos gouvernants visent à diviser. Alors à diviser selon l'origine sociale, selon l'origine tout court, géographique. Donc on développe le racisme, on crée des barrières entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Enfin, on crée des barrières à l'infini. Et donc, alors on agite, surtout maintenant, on agite la peur du terrorisme, qui s'ajoute à la peur du virus, etc. Et donc, ça ne crée pas des conditions favorables à une bonne entente et surtout un rapprochement des gens entre eux. Alors, bon, ceci étant dit, il y a des habitants, y compris des habitants à Cantepo, qui ont des contacts avec leurs voisins et qui s'entendent bien avec leurs voisins et qui parlent avec leurs voisins. Mais il y a aussi, dans les immeubles, une peur. Après, il faut aussi ajouter qu'il y a aussi une peur, si on se mobilise, de perdre le logement. Il y a aussi la peur du bailleur, la peur de perdre le logement, parce qu'en fait, c'est la seule chose que les habitants ont. Surtout quand ils ont perdu l'emploi, ben, il reste le logement, donc on n'a pas envie de le perdre. Voilà. Donc, c'est... Bon, mais en fait, nous, de toute façon, nous faisons partie de ceux qui combattent pour donner confiance aux habitants, quoi.
C'est le plus important pour nous, c'est pour assurer le droit des locataires. Et vous voyez, les locataires, qu'est-ce qu'ils demandent aux locataires? Le locataire, tout d'abord, il demande de vivre dans un endroit propre, bien sécurisé, bien entretenu, mais malheureusement, les bailleurs, ils cherchent toujours de minimiser les dépenses, surtout dans les demandes des entretiens. De temps en temps, par exemple, les locataires restent plus de semaine et semaine pour avoir un entretien chez eux. De notre part, surtout en ce qui concerne les mutations. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes dans ce sujet. Parce que je participe chaque mois avec Tarnabita aux commissions d'attribution de logements. Ok, il y a des priorités pour Tarnabita et on respecte ces priorités. Mais quand même, de temps en temps, il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir des mutations, mais on n'arrive pas de voir une solution. Comme ma collègue a dit, les bailleurs cherchent toujours de changer vers la privatisation. Et sans doute, la privatisation est contre les intérêts des locataires. Donc, on est là toujours pour comprendre et pour étudier les besoins et les demandes et les problèmes de nos locataires. Et même, on est là de visiter leur quartier Et on est là de faire des réunions, soit ici, soit à notre bureau et aux places de pilotier, parce que nous avons chaque semaine, mardi et jeudi, entre 14h et 16h, on reçoit les locataires là-bas. Et vous voyez, la situation maintenant la plus importante, c'est l'expulsion. Donc, de notre côté, on trouve que l'expulsion, c'est une chose inhumaine, surtout pendant la période de la crise de la santé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur poste de travail, leur revenu est diminué, leur vie est complètement affectée. Donc, on trouve et on demande que l'expulsion doit être arrêtée d'ici jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire d'ici jusqu'à la fin de l'année, parce que même jusqu'à fin du mois d'avril 2022. Mais, à ce sujet, on a contacté la mairie, on a contacté la préfecture, on a écrit à Tarnavita, on a écrit à tout le monde pour dire qu'elle doit arrêter l'expulsion, surtout pendant la crise de la santé qui affecte tout le monde. Et voilà.
Parce qu'on le rappelle, normalement, il n'y a pas d'expulsion possible pendant la trêve hivernale.
Oui,
et là, c'est la fin de la trêve hivernale. C'est ça.
Exactement. Donc, mais Tarnavita, ils ont l'intention d'appliquer l'expulsion à partir du mois de juin. Donc, on est contre parce que la situation des locataires ne leur permet pas de payer les loyers. Et surtout, tout le monde a effectué, ce n'est pas simplement en France, même dans le monde entier, le chômage, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir des aides. Et même l'expulsion va effectuer la vie sociale de la famille. Imaginez-vous, par exemple, s'il y a quelqu'un avec des enfants et on trouve dans un seul jour, ils ont dehors de leur appartement. Imagine la vie des enfants, la vie des couples. Je ne sais pas, c'est-à-dire ça nous donne une impression que les bailleurs cherchent à leur intérêt sans avoir l'intérêt des locataires. Et ça, vraiment, ça va créer beaucoup de problèmes dans la société.
Dans cet immeuble de Bagnolet, les locataires ont décidé d'afficher leur colère au balcon.
France 3.
En l'absence de revenus, ils ne peuvent plus payer leur logement et se sont lancés dans une grève des loyers.
27 mai 2020.
Laura Romero vit ici avec son mari et ses deux enfants. Avec la crise sanitaire, son mari, salarié du bâtiment, a perdu près de 1 000 euros de revenus par mois. Le couple peine aujourd'hui à payer le loyer de ce 30 mètres carrés.
Il n'y a pas quoi avoir. Hein. Il y a une chambre.
Un deux pièces qui leur coûte 830 euros. Un loyer qu'ils n'ont pas réglé au mois de mai.
Comme on a mon mari qui a travaillé beaucoup moins, on ne sait pas le mois à venir comment ils vont se présenter. Donc, voilà, on se serre la ceinture.
Cette grève est une façon de demander aux propriétaires de faire un geste qu'ils refusent pour l'instant.
Le confinement, la crise sanitaire, ce n'était pas leur faute. Donc le loyer ne pouvait pas être ni effacé, ni baissé. Ce n'est pas très solidaire, pas très humain.
Si dans l'immeuble, certains ont encore les moyens de payer, par solidarité, tous les locataires ont décidé de faire grève des loyers. Ensemble, ils ont créé un collectif pour faire pression sur le propriétaire.
Les 50 habitants de l'immeuble sont d'accord pour être solidaires des locataires qui ne peuvent plus payer.
On n'a pas hésité C'est tout le monde ou personne, sinon ça fonctionne pas, quoi.
On va pas regarder des gens se faire expulser sans rien faire.
Une initiative soutenue par l'association Droit au Logement, qui alerte aujourd'hui sur la précarité grandissante des locataires.
La crise, elle est devant nous. Le chômage va monter, les boîtes vont fermer, les entreprises, etc. Donc là, ça va être une véritable catastrophe sociale qui s'annonce. Il faut que le gouvernement mette en place les mesures de protection des habitants.
L'association réclame la création d'un fonds de solidarité pour les locataires en difficulté. De son côté, le propriétaire n'a pas répondu à nos sollicitations.
Est-ce qu'on peut craindre un retour de bidonville, de choses dont les HLM ont été en partie une solution contre les bidonvilles? Est-ce qu'on peut craindre un retour des bidonvilles en France en 2021?
Bon, je ne sais pas si ça prendra la forme de bidonville, mais déjà, il y a des bâtiments qui ne sont pas bien, bien entretenus. Et donc, avec la loi Elan et avec la diminution du financement du logement social, ben, il y a des risques réels qu'il y ait de plus en plus de bâtiments mal entretenus. Mais moi, je pense que il n'y a rien de fatal. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a rien de fatal. On peut toujours éviter le pire, hein, et on peut toujours progresser si les habitants se mobilisent. Si les habitants se mobilisent avec la CNL, ben, il est possible de progresser. Non seulement il est possible de ne pas régresser, mais il est possible de progresser. C'est-à-dire que normalement, enfin, moi je lance un appel à tous les habitants qui constatent des travaux à faire chez eux qui ne sont pas faits, ou des immeubles mal entretenus, de contacter la CNL, et il faut qu'on voit, les habitants et la CNL, ce qu'on peut faire ensemble. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et on peut obtenir la rénovation des quartiers. On peut obtenir que les loyers soient bloqués, n'augmentent pas. Voilà. Donc, rien n'est fatal. Souvent les locataires ont le sentiment de ne compter pour rien. Ben, ils comptent pour beaucoup parce que ce sont les payeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les locataires qui financent le logement social. Donc quand même, quand on est les payeurs, la moindre des choses, c'est d'être respecté. Donc moi je crois que je les appelle à avoir confiance d'abord en eux, et confiance aussi à la CNL, et je leur conseille de faire appel à la CNL pour avancer. Voilà. Donc, concernant les expulsions, tu l'as dit, avec les plans de licenciement, la diminution des indemnités chômage avec la nouvelle réforme, la nouvelle diminution de l'APL. Souvent, les locataires sont contraints de choisir entre payer le loyer ou se nourrir. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé à Madame la Préfète de ne pas autoriser une seule expulsion en 2021. Parce que nous considérons qu'une expulsion, c'est un acte d'une violence extrême. Et une expulsion, c'est ce qui broie vraiment les vies. Et on est dans un pays quand même qui vient, le gouvernement a donné quand même 206 milliards aux entreprises, aux grandes entreprises, qui elles-mêmes distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Donc dans un pays où on peut distribuer comme ça 206 milliards aux grandes entreprises, on est en capacité d'interdire les expulsions. Pour éviter les expulsions, nous proposons la création d'un fonds de solidarité qui serait alimenté par les bailleurs qui ont des grands patrimoines immobiliers, les banques, l'État et les dépôts de garantie des locataires. De créer donc ce fonds de solidarité pour éviter les expulsions. Voilà. Donc, là aussi, on appelle les locataires qui sont menacés d'expulsion, qui sont en impayé de loyer, de faire appel à la CNL, parce que là aussi, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Donc, nous les accompagnons dans les démarches pour éviter l'expulsion. Et puis, s'il y a beaucoup, beaucoup de locataires qui nous contactent, on peut aussi mener une action ensemble, quoi. Une action collective. Donc l'essentiel, c'est de ne pas rester, c'est que les locataires ne doivent pas rester, chacun ne doit pas rester isolé, parce que l'intérêt d'une association comme la nôtre, eh ben, c'est de se donner, disons, c'est d'avoir des forces, c'est d'avoir des capacités d'action. Bon, et les habitants peuvent compter sur la détermination de la CNL pour agir avec eux pour qu'ils obtiennent leurs droits.
Merci à Christiane Odetti et Mahmoud Abouchaouich, respectivement vice-présidente et présidente de la Confédération nationale du logement 81, une entrevue enregistrée le 4 mai 2021 à Cantepo. Les permanences de la Confédération nationale du logement 81, c'est les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h à la Bourse du Travail, au 9 place Pelloutier à Albi. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à Castres, Groyer, Carmaux, Gaillac ou Cantepo pour Albi, au 05 63 47 20 24, 05 63 47 20 24 ou par courriel cnl81@orange.fr. À l'issue.